Imagine un instant ce scénario. Tu diriges une station de radio, mais alors une station farouchement dédiée au journalisme d'investigation.
D'accord, le truc bien sérieux, quoi.
Exactement. Les faits, rien que les faits. L'information pure et dure, sans aucune concession.
Ouais, je vois très bien le genre.
Bon, du coup, comment tu penses qu'une station comme ça choisit d'ouvrir son antenne le lundi matin? Pour réveiller et motiver les gens qui écoutent, en fait.
Bah, logiquement, on s'attendrait à un flash info hyper percutant, non?
C'est ça?
Ou alors une musique survoltée, un rythme bien frénétique pour secouer un peu tout le monde avant d'aller au boulot?
Eh bien, pas du tout. Contre toute attente, le document qu'on va décortiquer aujourd'hui nous montre que cette station fait exactement l'inverse. Elle ouvre sa semaine avec, accroche-toi, une prière murmurée.
Ah ouais, c'est vraiment un point de départ fascinant, pour le coup. Ce qu'on va examiner aujourd'hui dans cette exploration, c'est presque un ovni radiophonique.
Un ovni, le veau est faible.
Grave. Mais c'est surtout en fait un véritable chef-d'œuvre de manipulation psychologique positive.
Complètement. Alors, pour donner un peu le contexte à notre auditoire, on a sous les yeux un script brut, avec toutes les annotations techniques, les didascalies, tout ça.
Ce qui est une mine d'or, soit dit en passant.
Ah, mais totalement. C'est le script d'une émission matinale qui s'intitule Prière du lundi, foi, espérance et force intérieure pour bien commencer la semaine. Et c'est diffusé par une station qui s'appelle Radio Tantam Africa.
D'accord.
Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer le code source de ce texte. On va regarder comment, grâce à une ingénierie sonore vraiment millimétrée,
Et un rythme vocal très spécifique aussi.
voilà, comment tout ça parvient à prendre l'angoisse universelle du lundi matin pour la transformer en une espèce de force motrice incroyable.
Et en fait, le truc qui change tout ici, c'est d'avoir accès à ces fameuses didascalies, les instructions pour l'animateur et le réalisateur.
C'est ça, on est dans les coulisses, quoi.
Exactement, on n'est plus juste des auditeurs passifs, on est dans la salle de contrôle, on voit sur quel bouton cognitif et émotionnel le texte appuie.
Alors, plongeons tout de suite dans cette salle de contrôle, avec la première partie que j'appellerais la salle de décompression.
J'aime bien l'image.
Avant même le tout premier mot, les instructions sonores sont, honnêtement, elles sont choquantes pour de la matinale. Je te lis le script.
Vas-y.
Ambiance sonore, piano doux plus nappe spirituelle. Et là, l'indication technique majeure, volume moins 25%.
Ah oui, quand même.
Et ça continue. 5 secondes d'introduction instrumentale. Moi, je t'avoue que ça me laisse perplexe.
Bah, ça se comprend.
5 secondes de quasi-silence à la radio un lundi matin, c'est une éternité. C'est pas un peu un suicide radiophonique de baisser le son quand les gens sont encore à moitié endormis?
C'est vrai qu'en surface, ça semble totalement contre-intuitif.
On est d'accord.
La règle non écrite des matinales à la radio, c'est de faire du bruit. Faut s'imposer par-dessus le brouhaha du réveil, de la machine à café, de la douche.
C'est ça, faut capter l'attention.
Sauf qu'ici, le choix de ce volume à moins 25%, ça s'appuie sur une notion neurologique très précise, en fait. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'orientation.
Le réflexe d'orientation. C'est-à-dire...
En gros, c'est un mécanisme de survie hyper archaïque de notre cerveau. Faut savoir que notre cerveau, c'est une machine à prédire.
Ok.
Donc le matin, la personne allume sa radio et son cerveau s'attend à un volume standard. Des jingles explosifs, des voix super énergiques.
La routine, quoi.
Voilà. Mais si d'un coup l'environnement sonore devient anormalement bas, le cerveau interrompt direct ce qu'il fait. Il se dit, hé, attends, il se passe un truc inhabituel là, faut que je me concentre pour comprendre.
Ah, c'est génial. En psychologie, on n'appelle pas ça une rupture de pattern.
C'est exactement ça, une rupture de pattern. Au lieu de crier pour capter l'attention, le réalisateur force carrément l'auditeur à tendre l'oreille.
C'est brillant. C'est du piratage d'attention pur et dur en utilisant le silence. Je vois très bien la scène.
Tu t'imagines dans ta cuisine?
Grave. T'es en train de beurrer tes tartines, la radio est presque inaudible, tu t'arrêtes, tu regardes le poste, genre, il y a un problème technique. Et boum!
Et boum, ils ont capté toute ta concentration.
C'est fou!
Et c'est là que la première instruction pour la voix tombe. Le script demande une voix, je cite, « lente, profonde, habitée ».
Ce qui contraste vachement avec les morning shows classiques.
Ah, mais complètement. Et c'est suivi d'une autre instruction dingue, « respiration lente ». En fait, l'animateur doit rendre sa propre respiration audible au micro.
Attends, vraiment? Il doit souffler dans le micro?
C'est ça. Et c'est pas un détail technique du tout. C'est un message subliminal super puissant.
Comment ça?
Bah, dans une société où tout va trop vite, entendre quelqu'un prendre le temps de respirer, c'est une vraie preuve de vulnérabilité. Et par mimétisme neuronal, ça force le rythme cardiaque de la personne qui écoute à ralentir aussi.
D'accord, donc on a physiquement calmé les gens qui nous écoutent.
Voilà, Le terrain est préparé.
Mais c'est au niveau du texte que moi j'ai eu mon premier vrai blocage, en fait. On est censé être dans une émission qui donne de la force intérieure, on est d'accord?
Oui, c'est la promesse du titre.
Or, écoute comment le script décrit le lundi. Le lundi peut être un poids, un recommencement, une bataille silencieuse.
Des mots assez lourds, ouais.
Je continue. Un jour où l'esprit doute, où le cœur hésite, où l'âme cherche la lumière. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de plomber l'ambiance.
C'est vrai que ça paraît sombre.
C'est complètement contre-productif de rappeler aux gens à quel point ils sont angoissés un lundi matin, non?
Bah, c'est une réaction très naturelle de penser ça. Mais c'est justement là que réside toute la subtilité de ce qu'on appelle la validation émotionnelle.
Ok, explique-moi ça.
Imagine la situation inverse, en fait. T'es épuisé, t'es stressé par la semaine qui s'annonce, et la radio te hurle. Allez, souriez, la vie est belle, on donne tout.
Ah ouais, l'enfer.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
J'ai juste envie de balancer la radio par la fenêtre, en fait.
Exactement. C'est de la dissonance cognitive. C'est le grand danger de la positivité toxique, tu vois.
C'est-à-dire quand on te force à être heureux.
Ouais, quand on t'impose une émotion joyeuse qui est en contradiction totale avec ta propre réalité interne. Ça crée un vrai frottement psychologique.
C'est presque douloureux, quoi.
C'est comme des ongles sur un tableau noir. Le cerveau rejette le message en bloc parce qu'il se sent pas du tout compris.
Ah, je commence à voir le piège.
Du coup, ce script, au contraire, il fait preuve d'une intelligence émotionnelle incroyable. Il valide d'abord la souffrance de son auditoire.
En qualifiant le lundi de « bataille silencieuse ».
Voilà. C'est une façon de dire, implicitement, « je sais que vous êtes fatigué, je sais que c'est dur, votre anxiété, elle est légitime ». Il nomme le monstre caché sous le lit, en fait.
Et en reconnaissant cette obscurité, il gagne le droit d'être écouté pour la suite.
Exactement. La résistance de la personne qui écoute s'effondre. Elle se sent comprise.
C'est un désamorçage parfait. On valide l'angoisse pour mieux l'évacuer. Et d'ailleurs, la transition qui suit est remarquable. L'animateur dit juste « Alors, aujourd'hui, nous faisons un choix. »
Et quel choix ?
Ouais, le choix de s'arrêter, de respirer, de s'élever. Il y a même une nouvelle pause de 3 secondes notée dans le script à ce moment-là.
Le fameux sas de décompression.
Totalement. Là, l'auditeur est prêt mentalement. Et c'est là qu'on bascule dans le cœur du document. La section qui s'appelle carrément « prière ».
Et regarde bien le changement de posture dans les didascalies. On lâche la voix lente et profonde.
Ah oui, je vois.
L'instruction maintenant, c'est une voix, je cite, « posée, sacrée, incarnée ». Le registre bascule complètement. On quitte la petite analyse psychologique du quotidien pour entrer direct dans la sphère du divin.
C'est clair. Moi, j'appelle ça l'architecture de la protection absolue.
C'est une belle façon de le dire.
Le texte déploie d'un coup un vocabulaire, mais digne d'un manuel de fortification du Moyen-Âge, en fait.
C'est vrai, les mots sont hyper denses.
On parle de refuge, de forteresse, de lumière dans l'obscurité. On parle d'un Dieu qui délivre, qui protège, qui restaure.
Tout le champ lexical de la sécurité.
Et il y a cette image que je trouve très belle, très cinématographique même. Tu nous couvres de ta paix comme d'un manteau invisible. C'est vraiment un bouclier total qu'on offre à la personne qui écoute.
Et ce choix de mots, il n'est pas du tout accidentel. Il puise direct dans la structure rhétorique des psaumes, des textes sacrés millénaires.
Ah oui, ça reprend les vieux codes.
Oui, parce que si ces structures ont survécu aussi longtemps, c'est parce qu'elles répondent à un besoin évolutif fondamental de l'humain, le besoin de sécurité.
Face à l'inconnu, quoi.
C'est ça. Face à un monde qu'on perçoit comme chaotique, la métaphore de la forteresse offre un ancrage cognitif massif. On donne à l'esprit un lieu sûr pour s'abriter.
Mais justement, en parlant de monde chaotique, il faut qu'on s'arrête sur une partie spécifique de ce texte.
Laquelle ?
Quand j'ai lu certains passages, j'ai cru halluciner, en fait. Je vais faire l'avocat du diable 2 secondes, d'accord ?
Vas-y, je t'écoute.
Écoute ces phrases. « Nous ne craindrons ni la nuit, ni les épreuves du jour, ni les tempêtes invisibles qui traversent nos vies. »
C'est fort.
Et un peu plus loin, pire encore, même lorsque 1000 tombent autour de nous, même lorsque le doute nous entoure, nous restons debout.
Ah oui, l'image des bibliques.
Honnêtement, on a l'impression de se préparer pour la saison 4 de The Walking Dead, là. Et pas pour une réunion de 9h du mat avec la compta.
C'est pas faux.
C'est un paradoxe total, non? En voulant rassurer, le texte nous peint un monde extérieur hyper apocalyptique, hyper terrifiant.
Alors, c'est une super question. Et ça nous amène à un des outils rhétoriques les plus puissants qui existent. L'effet de contraste ou l'ancrage.
C'est-à-dire ?
Bah, visuellement, si tu veux qu'un cercle gris clair paraisse d'un blanc pur et éclatant, tu le mets pas sur un fond gris foncé, tu le mets sur un fond noir absolu.
D'accord, donc l'ombre intense fait ressortir la lumière.
Exactement. C'est toute la mécanique de ce texte. Si le scribe disait juste « vous inquiétez pas pour vos petits tracas de bureau », l'effet serait super faible.
Ce serait presque infantilisant, en fait.
Voilà. Au lieu de ça, le texte magnifie la menace de façon presque mythologique. Les tempêtes invisibles, les milliers de personnes qui tombent.
Ouais, je vois la manœuvre.
En exagérant le danger extérieur, il magnifie proportionnellement la puissance de la protection qu'il offre.
Donc, si le fameux manteau invisible, divin, est assez puissant pour nous protéger de la fin du monde et des tempêtes ravageuses...
Il aura aucun mal à te protéger des embouteillages ou d'un email passif-agressif d'un collègue, c'est ça.
C'est énorme. En hissant le niveau de la menace aussi haut, les petits tracas du lundi matin sont complètement mis en perspective.
Ils rétrécissent, ils deviennent insignifiants et surtout, ils deviennent gérables.
C'est fou. C'est cette tension dramatique qui permet d'implanter un sentiment de paix aussi profond.
Tout à fait. Et c'est pour ça que la prière se termine par une affirmation avec une voix, je cite, « douce mais ferme, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes guidés ».
La forteresse est bâtie, l'auditeur est à l'abri.
La construction est achevée, ouais.
Et c'est là que le script révèle sa véritable intelligence stratégique. Parce que s'il s'arrêtait à cette ligne, le message de fond serait foncièrement passif, tu vois.
Genre, asseyez-vous, ne faites rien.
C'est ça. Une force divine supérieure s'occupe de gérer le chaos, restez sur le canapé. Or, la radio, surtout la matinale, le but c'est de mettre les gens en mouvement.
De les faire sortir de chez eux.
Du coup, la section suivante change radicalement de ton. Elle s'intitule « Méditation signature ».
Et l'instruction vocale exige maintenant une voix douce, introspective.
On quitte le sacré pour revenir à l'humain, en fait.
Et c'est fondamental comme transition. L'auditoire passe de l'état de protégé, tu sais, quelqu'un sur qui on pose un manteau, à l'état de décideur. C'est le début de l'action.
Et j'ai cherché une image pour décrire ce basculement. Et j'ai pensé aux montres automatiques classiques.
Les montres s'empilent.
Voilà. La première partie du script, cette prière un peu enveloppante, c'est comme le mouvement initial du poignet. C'est une force extérieure qui te berce.
D'accord, je vois l'idée.
Mais le but de ce balancement, c'est en réalité de remonter le petit ressort à l'intérieur de la montre. Et dans cette section de méditation, le ressort, il est tendu à bloc.
Le mouvement extérieur s'arrête.
Exactement. Et c'est l'énergie interne de l'individu qui prend le relais pour faire avancer les aiguilles. L'auditeur est responsabilisé.
Ton analogie est super juste, en fait. C'est vraiment le mécanisme de l'autonomisation, l'empowerment, comme on dit.
Ouais, l'empowerment.
Et pour déclencher cette énergie, le texte utilise une technique redoutable, la règle de trois. Écoute cette série. Choisir la paix. Choisir la discipline. Choisir la vérité.
C'est vrai que la formulation claque bien. Mais pourquoi toujours trois, en fait? On retrouve ça partout dans la pub, chez les politiciens.
Bah, c'est de la pure science cognitive, pour le coup. Notre cerveau cherche constamment des motifs pour traiter l'info rapidement.
Des patterns, encore une fois?
C'est ça. Un élément isolé, c'est juste un point. Deux éléments, c'est une ligne, un contraste.
Et trois?
Trois éléments, c'est le minimum requis pour créer une structure, un motif complet que le cerveau identifie et mémorise avec satisfaction.
Ah ouais? C'est le chiffre magique du cerveau.
En plus, la répétition rythmique du verbe « choisir » au début de chaque phrase, ça force vraiment cette notion de libre arbitre.
Et le contenu de ces choix est assez frappant. Parce que choisir la discipline, c'est pas du tout une formule magique ou spirituelle, hein.
Non, ça demande un effort concret. C'est presque rugueux. On n'est plus du tout dans la contemplation passive.
C'est clair. Le texte enchaîne d'ailleurs avec une deuxième triade, encore plus physique. Marchez avec dignité, parlez avec conscience, agissez avec intention.
L'accent mis sur la conscience et l'intention, il est crucial ici.
Pour pas être en pilote automatique.
Exactement. L'idée, c'est de transformer une journée subie, où on est victime de son réveil ou des événements, en une série de décisions délibérées dont on est le seul auteur.
Et c'est à cet instant précis qu'arrive pour moi la phrase charnière de tout le document. La justification ultime.
Ah, je crois savoir laquelle.
Car chaque mot que vous prononcez porte une énergie. Boum. L'impact de cette ligne, il est colossal.
Ça change toute la perspective de la journée.
Soudain, le but, c'est plus seulement de survivre à sa propre petite fatigue du lundi. En disant ça, on rend la personne qui écoute totalement responsable de son impact sur les autres.
Elle réalise que son humeur va polluer ou illuminer la journée de ses collègues.
C'est ça. La métamorphose est achevée. Le script a pris un individu écrasé par le poids du lundi. Il l'a extrait de sa torpeur avec du silence. Il a validé son angoisse.
Il l'a sécurisé dans une forteresse spirituelle.
Et à la fin, il le renvoie dans l'arène de la vraie vie, armé de discipline, d'intention et surtout conscient du pouvoir de ses mots. C'est une masterclass.
C'est vraiment le mot, ouais.
Mais attends, on n'est pas au bout de nos surprises. Parce que tout ça, ça nous amène à la toute dernière section du document. La clôture.
Ah, le moment où tout s'éclaire.
L'instruction demande une voix assurée, inspirante. Et on arrive aux éléments de langage qui définissent la station de radio elle-même. Et là, gros choc cognitif pour moi.
Le grand écart identitaire de la station.
C'est vertigineux, franchement, fou. La station rappelle son nom, Radio Tantam Africa. Le premier slogan, c'est « La voix du Sud ». Bon, très bien.
Logique.
Mais le deuxième slogan, écoute ça, c'est « Le pouvoir des faits ». Et juste après, l'animateur appelle à soutenir une parole libre, indépendante et engagée.
Les mots-clés du journalisme pur, quoi.
Mais alors là, faut m'expliquer. Comment c'est possible?
C'est-à-dire
comment une radio qui se définit par le pouvoir des faits, qui fait du journalisme d'investigation bien concret, choisit d'ouvrir son antenne avec une prière spirituelle qui invoque une protection divine?
C'est vrai que ça paraît contradictoire.
Dans notre façon habituelle de penser, le monde du journalisme factuel et le monde de la foi, ils sont censés être totalement hermétiques, voire opposés.
C'est une super observation. Et c'est ce paradoxe qui rend ce document si unique, en fait.
Comment y réconcilier les deux?
On a tendance à opposer la rationalité des faits à l'irrationalité de la foi. Mais si on regarde bien la philosophie du texte, la station résout ce conflit juste avant la clôture.
Avec quelle phrase?
Avec cette ligne éditoriale, la parole est une force. Pour eux, il n'y a aucun conflit.
Le trait d'union entre les deux mondes, ce serait le langage lui-même.
Exactement. Le dénominateur commun entre une prière et un grand reportage d'investigation, c'est le pouvoir transformateur et créateur du verbe.
Ah ouais, c'est profond.
Que ce soit la force spirituelle d'une prière pour aider quelqu'un à affronter son lundi, ou la force factuelle d'un journalisme engagé pour dénoncer une injustice, l'outil est le même.
Le mot juste, prononcé avec courage.
C'est ça. Ils ne s'adressent pas juste à l'intellect avec des faits ou juste à l'esprit avec des croyances. Ils nourrissent les deux en même temps.
Les faits et la foi sont pas des ennemis, du coup?
Non, ce sont les deux piliers complémentaires d'une seule mission, l'élévation du public.
C'est une vision incroyablement holistique de l'auditeur et ça donne une dimension hyper intéressante au mot « indépendant » qu'ils utilisent.
Ah oui, dans quel sens?
Quand ils disent « parole libre et indépendante », cette liberté, elle englobe aussi le droit d'assumer sa spiritualité sur une chaîne d'infos. C'est le refus d'être mis dans une case.
Totalement. Et le voyage s'achève sur la dernière indication sonore. Musique monte, 5 secondes, fondu progressif.
Le sas de décompression se remplit d'oxygène.
La boucle neuropsychologique est bouclée, en fait. On est entré par une baisse de volume pour pirater la tension. On sort par une montée musicale qui confirme l'action. La journée peut commencer.
Quel document fascinant. Si on prend un peu de recul sur cette plongée aujourd'hui, c'est dingue la densité de ce qui se joue en quelques lignes et peut-être 2 minutes d'antenne.
C'est clair. Par une chorégraphie invisible des silences, de la voix, de la rhétorique, ce script fait faire un virage à 180 degrés à l'auditoire.
Il prend quelqu'un de vaincu par son lundi matin, lui offre une armure psychologique, puis lui passe le relais de sa propre vie. Et tout ça sous la bannière inattendue du pouvoir des faits.
C'est la preuve magistrale que la forme et le fond. La manière dont tu livres l'info, le rythme, le silence, ça détermine comment le cerveau va l'absorber pour changer les choses.
Absolument. Et ça m'amène à une dernière pensée, une petite réflexion que j'aimerais laisser infuser pour tous ceux qui suivent cette émission aujourd'hui.
Je t'en prie.
Ce texte de Radio Tantam Africa, il pose comme un postulat indiscutable que chaque mot que vous prononcez porte une énergie. La parole, c'est pas juste du bruit, c'est une force concrète qui agit sur le réel.
C'est très vrai.
Alors pour notre auditoire, et si on les prenait au mot, littéralement? Si on applique ce principe-là aujourd'hui, dans quelle mesure les mots que nous allons prononcer lors de notre toute prochaine conversation, que ce soit avec un collègue, un commerçant, un proche, vont agir comme une force de reconstruction pour cette personne?
Ou au contraire,
par inattention, est-ce que nos mots vont venir alimenter ces fameuses tempêtes invisibles que l'autre traverse peut-être en secret? C'est le pouvoir brut qu'on détient à chaque fois qu'on ouvre la bouche.
À nous de choisir l'intention, quoi.
C'est exactement ça. Gardons bien cette question en tête aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration dans l'envers du décor.